Bonjour. Alors, encore une fois, normalement, j'ai quelques minutes d'avance et j'en profite pour des précisions de local. Encore une fois, le séminaire a lieu à 4 heures et comme semble-t-il, les transports ont repris, ceux qui assistent au cours de sino-japonais, introduction sino-japonais, nous pourrons aller tant bien que mal jusqu'à à Boulevard Raspail, donc à partir de 6h moins 10, nous quitterons le collège à 6h moins 10 pour aller vers Raspail, en espérant d'y arriver vers 6h15, 6h20. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci de venir à cette troisième leçon qui est consacrée. Alors, la vie de Motohori Norinaga, vous verrez que comme on dit en sino-japonais, c'est de la. Une tête de mouton et de la viande de chien, n'est-ce pas? Mais la vie je vous trompe un peu sur la marchandise, ça veut dire. Mais ce sera la toute dernière partie, le dernier tiers simplement sera consacré à la vie de Motori Norinaga, qui n'a pas eu une vie très aventureuse d'ailleurs, c'est surtout dans ses œuvres qu'il s'est inscrit, puisque dans la vie de son époque, encore que il n'ait pas été inactif non plus. Mais avant de présenter donc les grandes lignes de sa vie et de son œuvre, il serait intéressant, pour apporter une illustration aux exposés des deux premières leçons, de présenter ici un poème sino-japonais tardif, datant d'après Norinaga, mais qui est très représentatif de l'état d'esprit que j'ai essayé de vous décrire pendant les deux dernières leçons. Il démontre de façon exemplaire le processus que nous avons tâché de mettre en lumière, celui d'une légitimation, d'une mise à niveau de la culture japonaise, désormais perçue comme traditionnelle ou classique. Et ça va être tout ça, c'est en préparation, bien sûr, à la lecture des textes de Norinaga. Et vous verrez donc au terme d'un long processus sur lequel nous reviendrons, Norinaga fait sien le concept d'antiquité, le initié, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui est le terme japonais, un terme japonais complètement refait, n'est-ce pas, qui veut initié se décompose ce qui est passé, littéralement. Mais que c'est un terme donc purement japonais qui est mis en correspondance au chinois gu, n'est-ce pas, le ko. Kofurui, c'est-à-dire l'antiquité chinoise, comme horizon de référence. On se refait un horizon à côté. Et donc le passage du japonais classique au chinois classique n'est pas, alors que je vais vous expliquer, n'est pas, et c'est pas du chinois au japonais, mais c'est du japonais au chinois, n'est-ce pas, n'est pas en l'occurrence dû à un souci d'internationalisation ou de cosmopolitisme, mais bel et bien à une préoccupation interne de reconstitution hiérarchique de la relation wakan, la relation japono-chinoise, qu'on traduit le plus souvent sino-japonaise, mais comme vous le voyez bien, les Japonais ont mis wa d'abord, le Japon d'abord. Le poème que nous allons lire, se trouve dans l'étude passionnante de notre collègue Robert Tuck de l'Université d'Arizona sur le rôle culturel et politique de la poésie, je vous donne l'indication ici, et y compris de la poésie sino-japonaise des kanji de l'époque de Meiji. Nous allons voir que les liens textuels qui y sont tissés manifestent bien les préoccupations de l'époque telles que nous les avons esquissées. Il faut d'abord dire quelques mots de l'autoresse, qui est Shirakawa Kintsugi, vous verrez son nom tout à l'heure, ici, n'est-ce pas, qui est issu d'une famille de religieux de la secte ou de l'école Shin, soit Jodo Shinshu, de la province de Hida, dans le Tosando, c'est l'actuelle préfecture de Gifu. Elle reçut de son père, comme très souvent, avec ses deux frères, une éducation très soignée en Kambun. Et enfin, c'est presque un motif récurrent de l'histoire des femmes célèbres du Japon. En général, c'est de façon indirecte qu'elles ont appris le chinois parce qu'elles avaient un frère aîné, souvent un frère aîné moins doué qu'elles, et le père regrettant toujours que sa fille ne fût pas un garçon. Mais on peut se demander dans quelle mesure ça arrive si souvent, ça a dû être vrai aussi, mais ça ressemble aussi à une sorte de motif littéraire, n'est-ce pas, que je vous ai déjà décrit. L'étude de la langue chinoise est un acte de pédantisme qui est considéré comme... Non pas, ce n'est pas le fait de maintenir les femmes dans l'ignorance, c'est de ne pas imposer cette éducation qui est réputée virile. Donc là aussi, elle a. Alors évidemment, les frères ont dû être un peu jaloux, puisqu'elle était une sorte d'enfant prodige, et qui composait des kanji, des poèmes en sino-japonais, dès l'âge de 8 ans. Alors elle eut une vie maritale un peu complexe, je n'y reviens pas, et comme souvent là aussi c'est un motif récurrent, non seulement des autoresses en sino-japonais, mais des romancières japonaises aussi, enfin une vie qui est tout à fait, qui n'entre pas dans nos conceptions de la vie quotidienne japonaise de l'époque, mais qui en réalité semblait beaucoup plus répandue qu'on ne le croit. Nous relevons seulement qu'il résida à Kyoto, à la recherche de l'ancienne culture japonaise. Vous voyez, bien qu'il se soit une spécialiste du sino-japonais. Et elle s'installa à Nagoya, où elle termina sa vie bien trop brève, comme vous l'avez vu, n'est-ce pas, elle avait 34 ans, quand elle est morte. Elle fut la disciple d'un grand Kangakusha, d'un grand spécialiste des études chinoises, et prosateur de style chinois, Kikuchi Sankei, quelqu'un aussi qui gagnerait vraiment à être étudié plus en détail. C'est un confucianiste, un Kangakusha, mais en même temps c'était un auteur, et c'est l'un de ces auteurs tardifs, japonais, qui ont fait, justement, je vous parlais de la dernière fois du paradoxe de l'histoire linguistique du Japon qui ne correspond pas à ce que nous attendons en Occident ou ailleurs maintenant la plupart du temps, c'est-à-dire un passage d'une langue lettrée, savante, archaïque, dépassée au règne absolu de la langue courante. S'il n'y avait pas eu l'intervention occidentale de la fin d'Edo, le Japon s'orientait dans une direction tout à fait différente, où l'on voyait une véritable renaissance, non seulement une renaissance des lettres chinoises, mais l'apparition de nouveaux genres littéraires pour le Japon, et en particulier de sortes de romans ou d'écriture imaginative en chinois littéraire. Kikuchi Sankei, qui s'inspirait énormément de la littérature contemporaine chinoise de l'époque. Et Kikuchi Sankei est l'un de ses représentants. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout un retour à l'archaïsme, mais c'est un nouveau développement. Et en plus, elle étudia l'anglais. C'est ce qui est là, bien sûr, nous sommes à l'époque de Meiji maintenant, et la littérature en cette langue. Elle réalise quelque chose qui n'est pas rare à l'époque, on pourrait en donner des tas d'exemples, une double culture, c'est-à-dire une double culture au sens large, une double ouverture, Tōzai, n'est-ce pas, l'Orient et l'Occident. Et qui est, c'est deux mondes qui étaient en train de s'harmoniser au Japon pour faire une nouvelle culture sur laquelle nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et pourtant, elle était... alors, je vous signale aussi ce très intéressant chercheur au nom imprononçable russe, n'est-ce pas, Skavronskir, qui écrit essentiellement en russe, mais qui de temps en temps, comme ça se fait d'ailleurs au Japon, vous voyez, il y a des recueils en langue anglaise pour faire connaître dans le monde de la recherche internationale les travaux de telle ou telle langue. Skavronskir a eu la chance d'être... Enfin, ses travaux ont fait qu'il a mérité d'être publié dans ces Japanese Studies in Russia, qui donnent des espèces de synthèses comme ça. Et Skavronskir et Robert Tuck travaillent sur des choses très proches, de façon indépendante. Il faut vraiment lire les deux pour se rendre compte de l'atmosphère de l'époque. Alors, elle était farouchement confucianiste, ça c'est. Et c'est cette conviction qui l'amena à publier Kinsui, n'est-ce pas, en 1879, vous voyez que nous sommes déjà bien avancés dans l'ère Meiji, un ouvrage qui se situe dans une antique tradition chinoise. Ce sont des vies des femmes illustres du Japon, œuvre d'une historienne. C'est comme ça qu'on peut traduire to aussi. Vous allez voir ce caractère to qui signifie le vermillon, n'est-ce pas, et qui, bon, par allusion au maquillage aussi. Enfin, et alors il y a plusieurs hypothèses aussi. Est-ce que les femmes utilisaient vraiment des pinceaux à l'encre rouge, comme vous allez voir dans le poème de tout à l'heure? C'est une autre, en Chine ancienne, c'est une autre histoire. Disons que à l'époque d'Edo et de Meiji, dans la sphère sino-japonaise, ce caractère to est vraiment l'indice de l'activité littéraire féminine. Donc on peut dire « Vie des femmes illustres du Japon, œuvre d'une historienne ». Rédigé cependant, non pas... Alors, ce n'est pas rédigé en kanbun à proprement parler, mais un autre style dont je vous ai déjà indiqué l'importance la dernière fois, le kakikudashibun, normalement, le yomikudashi, c'est le kundoku, n'est-ce pas? C'est le kanbun, le sino-japonais que vous avez sous les yeux, que vous réalisez oralement. Mais à un certain moment, on a fini par le mettre par écrit. Donc ça devient un nouveau style littéraire qui a fait florès, je vous l'ai dit la dernière fois, quasiment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, dans les domaines plutôt érudits de la littérature. Donc elle l'a fait en kakikudashibun. Alors là, expressément, dit-elle, pour en faciliter la lecture aux femmes insuffisamment versées dans les lettres classiques. Mais si vous lisiez le texte, si vous voyez le texte, et comme vous, si vous voyez le texte de beaucoup de ces livres écrits en kakikudashibun, ce n'est pas la langue de tous les jours. Il faut déjà avoir une éducation tout à fait importante pour le comprendre. Alors, vous allez le voir, elle défend une vision très confucianiste du rôle de la femme dans la société, mais je vous renvoie à Skovronsky et Tuck de ce point de vue. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Shirakawa Kinsui fait partie de ce groupe de femmes littéraires qui écrivait en sino-japonais à la fin d'Edo et au début de Meiji, dans ce nouveau tournant des lettres au Japon, de la philologie au Japon, et au point que ça a attiré l'attention en Chine continentale même, puisque nous sommes à une époque, cette époque malheureusement très courte, mais qui aurait pu donner des choses extraordinaires, où nous avions un triangle culturel relativement... relativement libre de l'influence occidentale. Enfin, il y avait une certaine souveraineté et puis des influences idéologiques postérieures entre la Chine, la Corée et le Japon, n'est-ce pas? Et les gens allaient et venaient dans tous les sens. C'est une époque passionnante qui n'a pas pu continuer. À l'époque où le Japon, les lettrés chinois allaient au Japon pour assimiler la culture occidentale. Et justement, ce nouveau modèle de relations culturelles a donné une place très grande à Shirakawa Kinsui et à ses consoeurs, en quelque sorte. Si bien qu'on a vu en Chine, à la fin du XIXe siècle, de grands recueils de poèmes sino-japonais publié, c'est-à-dire donc pour les Chinois, ce n'est pas du sino-japonais, c'est du chinois classique, tout simplement, mais publié en Chine et par des Chinois pour montrer l'importance des lettres chinoises au Japon. Et souvent, des recueils consacrés aux femmes poètes, ce qui se faisait déjà au Japon et en Chine, mais pour les poétesses chinoises. Donc nous avons ici encore un bel exemple de chinois classique comme langue cosmopolite revitalisée, mais malheureusement pour une très brève période. Et donc, en marge de son œuvre biographique, c'est celle que je viens de vous indiquer, et moralisatrice, Kinsui fut en effet une poétesse très appréciée au Japon comme en Chine, appréciée des connaisseurs, des fins lettrés, parce qu'elle maniait en particulier des maîtres rares, des formes poétiques chinoises, mais vous savez, quand vous commencez à faire de la poésie chinoise, enfin, au Japon comme partout, on vous fait faire des petits quatrains de 7 caractères, c'est le plus facile. Et puis après, vous pouvez faire le quatrain de 7 ou de 5 caractères à régner en maître, et puis après, vous avez toutes sortes de maîtres beaucoup plus difficiles à manier, parce que la connaissance de la prosodie doit être très, très, très fine, et même de la prononciation. Et donc, nous allons d'ailleurs voir un exemple dans ce petit poème sino-japonais que je vais lire avec vous. Alors, ce poème dont je voudrais vous montrer justement qu'il exprime en quelque sorte l'essence de la relation sino-japonaise telle qu'elle s'était développée à la fin de l'époque d'Edo, et dont les derniers feux sont là, mais qui est le cadre dans lequel Motoori Norinaga va réfléchir, contre lequel, je l'ai dit, il va s'insurger d'une certaine façon, lui-même et les gens qui l'ont précédé et suivi. Alors il faut d'abord dire un bref mot du contexte littéraire excusez-moi, c'est une citation un peu longue, mais je vais vous la traduire. Voilà, le poème que nous allons lire part d'une anecdote très célèbre qui est dans le Makura no Soshi, n'est-ce pas, le livre de chevet de Seisho Nagon, qui est l'exacte contemporaine, vous le savez, de Murasaki Shikibu. Donc nous sommes vraiment dans l'âge d'or de la poésie japonaise, de la littérature japonaise, et vous allez voir que tout est déjà là, si vous voulez. Donc, voici ce paragraphe célèbre s'appelle donc la neige sur le mont Mine, n'est-ce pas, du Koro. Koro, c'est l'encensoir, le brûle-parfum. Le brûle-parfum, c'était une montagne donc qui avait plus ou moins la forme d'un qui voulait faire penser à un brûle-parfum. Et alors, je vous lis ce que, n'est-ce pas, Yuki no Itotako Furitaru wo, alors, tameshi narazu, mikoshi a maerite. Je vous donne, voilà, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe. Voici, ici, vous avez, c'est une, je crois que ça date de la fin de l'époque de, enfin, je sais pas si, mais vous voyez bien les koshi, n'est-ce pas, ce qui est appelé ici mikoshi, les treillis qui sont comme des espèces de volets, de volets que l'on peut rabattre. Vous voyez qu'il y a le haut et le bas qu'on peut rabattre sur ce qu'on peut appeler les non pas les fenêtres mais les ouvertures sur vers l'extérieur. Et puis vous avez derrière, vous avez ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle en japonais moderne sudare, n'est-ce pas, des sortes de stores, des nattes suspendues, et qu'on appelle, vous vous souvenez peut-être, on l'a vu plusieurs fois dans le Genji l'an dernier, misu, ou misu, c'est-à-dire les honorables, les augustes stores, quand ça se passe à la cour impériale. Évidemment, vous voyez bien que sudare, c'est su plus tare, n'est-ce pas, les stores qui... les suspensions de sort, en quelque sorte, de store. Et puis, je ne sais pas si on voit bien, vous voyez que cette dame est penchée sur une sorte de brasero, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle subitsu. On a hibachi, enfin, en japonais moderne. À l'époque, c'était aussi des œuvres d'art que l'on déplaçait de pièce en pièce selon que les gens... Évidemment, les pièces n'étaient pas chauffées, mais on apportait son chauffage avec soi. Donc, voici la quintessence de la... Mais c'est surtout cela qui importe, n'est-ce pas? Alors, donc, la neige était tombée fort abondante, et l'on avait exceptionnellement mis les clés. Donc, il faisait si froid que quand même, il fallait. Donc, on avait rabattu les clés. Donc, c'est ce qu'on voit ici relevé était rabattu. Et allumé les braseros, donc subitsu, et on s'était réunis pour deviser lorsque l'impératrice, alors sous-entendu, oh, pardon, je vous redonne le texte, l'impératrice n'est pas indiquée, mais Ocelaru, n'est-ce pas, indique bien que nous sommes le Ocelaru, indique bien que c'est l'impératrice qui parle. Donc l'impératrice Teishi, n'est-ce pas, qui s'appelle Sadako, si vous voulez. C'est, qui est morte d'ailleurs précisément en l'an 1000, qui est morte en couche en l'an 1000, et nous sommes en pleine époque du Genji. Alors, donc, et alors, on avait allumé les braseros et l'on s'était réunis pour deviser. J'attire encore votre attention sur le fait Monogatari Nadoshite Atsumari Saburooni. Monogatari, vous voyez, on ne s'est pas réunis pour faire des romans, n'est-ce pas? Monogatari est quelque chose de tout à fait, un terme extrêmement banal, si banal qu'il ne veut rien dire presque. Il indique tout art, toute conversation soutenue. Et encore une fois, voyez, on a déjà parlé sur le séminaire, mais voyez l'importance grammaticale de mono ici. Mono ne veut pas dire les choses comme on aurait tendance à dire. C'est un directionnel, simplement. C'est ce qu'on a dans monomané, monomanabi, et encore beaucoup d'autres choses. Ça indique que l'on fait quelque chose dans un but précis. Donc, et l'on s'était réunis pour deviser lorsque l'impératrice dit Shonagon, elle l'appelle Shonagon, le conseillère mineure. C'est, en réalité, c'est la fonction de son père. Qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir ? Vous voyez ? Koroho no yuki ikanaran. Alors, c'est une plaisanterie, en fait. Et ce sur quoi, alors, vous voyez, les personnes ne sont indiquées que par les terminaisons, et il faut voir. Alors, vous voyez, mikoshi. Agesa, c'est un factitif. Donc là, maintenant, et ça se rapporte à Agetareba, Takaku Agetareba, Wadawasetamo. Donc c'est Shonagon qui dit ici à la première personne, n'est-ce pas? Donc on lui demande, l'impératrice lui demande, qu'en est-il de la neige au monde l'encensoir? Ce sur quoi je fis lever la clef, bien sûr, c'est pas elle qui va le faire, elle demande à une servante de le faire, et rouler bien haut le store. Alors là, ce n'est Mikoshi o Takaku Agetareba, là c'est elle qui le fait. Elle demande à une suivante de lever la clé et elle soulève le store. Elle, se dit, c'est Shonagon. Et Sa Majesté daigna rire. Voilà, c'est Tamao. Et tous de dire, alors ensuite, alors là, évidemment, tout ça, ce sont des propos de cour, n'est-ce pas? Shitobitomo, ça, alors, tous, c'est-à-dire l'entourage, n'est-ce pas? Et tous, alors on pourrait même dire plutôt toutes, parce que il n'y a que des dames, et toutes de rire, et en disant, nous connaissons cela. Vous voyez, enfin, je sais bien que ce n'est pas le monde des cuisines, n'est-ce pas, comme dans ton abeille, mais c'est le haut du panier, si j'ose dire. Mais Sarukoto wa shiri, n'est-ce pas? Nous connaissons toutes cela. Et il nous arrive même de fredonner le poème. Utanadoni sae utaedo. Ici, je pense qu'il faut le comprendre au sens concret, le utaedo. Mais nous n'aurions pas pensé à cela. Omoikoso yorazaritsule. Nous n'aurions pas pensé à cela. Elle est bien faite pour sa charge. C'est-à-dire, elle n'est pas. Alors, il y a une petite. Est-ce que c'est Kono Miya ou bien Kono Tsukasa ou Kono Kan no Shitoniwa ça. Sabekinameri, n'est-ce pas? C'est un constatatif, le nameri. Elle est vraiment bien faite pour sa charge. Alors, vous voyez que nous sommes vraiment dans le monde du sous-entendu, et il y a derrière cette scénette une allusion à un vers célèbre d'un poème de Pochui, pour changer, lui, vous me direz, n'est-ce pas? Dont je vous donne simplement le vers qui importe, le vers qui est en haut avec la lecture en japonais, n'est-ce pas? Koroho no yuki wa sudare o kakangete miru. Vous pouvez enlever le wa aussi si vous voulez, mais enfin, ou mettre oba selon les cas. Donc, et ici on dit sudare, n'est-ce pas, puisque c'est dans un poème chinois, on n'est pas obligé de mettre les honorifiques japonais. Donc, et remarquez le troisième caractère avant la fin, Hatsu pour Kakangu, qui veut dire donc soulever. Et ce poème dit « Je roulais le store pour regarder la neige sur le mont de l'encensoir ». Alors, tout le sel de la scène provient de la taquinerie de l'impératrice. Elle avait... l'impératrice était toute jeune à l'époque. Elle est née en 976, donc elle avait moins de 24 ans. Et déjà, donc, vous voyez qu'elle connaissait le corpus poétique de Hakurakuten de Po Chuyi. Non seulement elle le connaît, mais elle s'attend à ce que tout le monde le connaisse. Et elle met à l'épreuve, en quelque sorte, sa dame de compagnie en lui suggérant un vers de Po Chuyi. Et lorsqu'elle dit ce vers, la réaction normale aurait été que Sei Shonagon simplement donne la suite du vers, lise à son tour la suite du vers, n'est-ce pas ? Elle aurait dû dire quelque chose comme Sudane au Kakangete, mille au moins. Mais au lieu de faire cela, au lieu de reprendre le poème, et en même temps, si elle avait repris le poème tel quel, ça aurait fait un peu un quiz à l'américaine, n'est-ce pas ? Oui, je connais la suite, mais ça aurait été d'un atroce mauvais goût. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on ne montre pas son érudition. Ça ferait bas bleu au possible. Et au lieu donc de reprendre le poème, elle mime le vers, elle mime la lettre du vers. Alors vous me direz, il n'y a pas de quoi, « nothing to write home about », comme on dirait en anglais, mais ça a été tellement désarçonnant pour d'abord, ça fait preuve d'une certaine audace, parce qu'elle elle agit devant l'impératrice, alors que les mouvements spontanés doivent toujours être contrôlés, mais le résultat est bien plus efficace. Il provoque le rire impérial et évidemment les compliments certainement jaloux de sa compagnie. Nous avons donc en quelques lignes une belle illustration de la complexité du rapport Wakan. Pour Kinsui, qui écrit dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette anecdote remontant à près d'un millénaire exprime la quintessence de la culture raffinée de l'époque de Heian. Mais elle est entièrement fondée sur l'incorporation au sens littéral, puisque c'est dans le corps de Sei Shonagon que le vers est mis en scène, donc l'incorporation d'un seul vers d'un poète chinois, bien sûr, et exprimé en langue japonaise. Cependant, l'imbrication langagière ne s'arrête pas là, et c'est pourquoi je vous cite cette histoire. Elle se poursuit avec le poème fait par Kinsui, donc, 1000 ans plus tard, dont nous présentons ici une traduction littérale, sans pouvoir nous arrêter sur les nombreuses subtilités de son chinois. Je vous renvoie aussi à Robert Tuck, qui en fait une traduction. Nous avons quelques légères différences d'interprétation, mais ce n'est pas grave, ça ne change rien au poème. Alors, je vous le donne, je ne vous le lis pas, parce que nous sommes déjà, je vois que nous sommes très, très en terre, mais je vous le donne vers par vers, donc. Et vous verrez que la leçon qu'en tire Kinsui, la leçon apparente, elle n'est pas du tout la même, mais ça c'est une autre histoire. Nous avons entendu parler des nombreuses beautés du palais aux fêtes incessantes. Premier vers. Mais qui donc les dépassait toutes aux appartements de l'impératrice ? La neige recouvrait les marches de jade. À l'aube, elles semblaient rutilantes. Les stores smaragdins, ça fait un peu Pierre Desproges, mais c'est les stores smaragdins n'étaient pas roulés. Et l'aube pourpre s'y reflétait. Qui donc suivit l'auguste injonction ? C'est Tarezo. Alors, c'est un peu difficile. C'est ce vers. C'est l'avant-dernier vers ici, n'est-ce pas ? Mais je vous donne mon interprétation. Qui donc suivit l'auguste injonction ? Dame Sei Shonagon. Le renom de son esprit, en peu de temps, stupéfia les profanes de la cour. Sous-entendu de la cour. Mais, alors, elle donne ici, je vous ai dit, Kinsui était une farouche confucianiste, donc elle dit, hélas, elle met en garde, n'est-ce pas, Jotoku, les qualités féminines, les vertus féminines, ne résident pas dans l'esprit délié. Zae ni arazu. Zay, encore une fois, c'est un terme que nous avons déjà vu, que nous reverrons ensemble, que nous en reverrons souvent. Subekaraku misaoni alubeshi, n'est-ce pas, ou teni alubeshi. Et les qualités féminines ne résident pas dans l'esprit délié, mais forcément dans la chasteté, ou la pudeur, ou la modestie. Et le vers qui suit est très embêtant. Moi, je propose de le lire Tanoshoeo. Enfin, il faudrait dire Kiraua, n'est-ce pas? Kiraua, Tanoshoe. Tanoshoe no Hansei no Ayamari, ou Ayamachi. Ou bien alors Tanoshoe no Ayamaru wa Hansho. Et je vous propose ma traduction. Et l'on répugne à voir chez les autres une si grande partie de la vie gâchée par une intelligence médiocre. Enfin, ou un esprit. Le shoe, n'est-ce pas, ou, qu'on devrait lire normalement shoke, n'est-ce pas, en lecture kaon. L'intelligence mineure, la sagesse mineure, je n'entre pas dans les catégories sublimes de cette expression, mais normalement ça veut dire aussi la sagesse pratique, la sagesse qui ne s'applique. Donc c'est l'esprit à la française, si j'ose dire, c'est pas l'esprit de répartie, si on pourrait dire. Comme le font. Et n'aurait pu y avoir chez les autres une si grande partie de la vie gâchée par une intelligence médiocre. Et ensuite, elle finit sur trois vers un peu cryptiques. Il y avait encore la Murasaki. La connaissez-vous? De son minuscule pinceau féminin, vous voyez encore Tōkan, elle sut rendre bien des circonvolutions et épuisa la description des sentiments des gens de ce monde, passé et présent. Donc, la critique de Kinsui semble porter ici avant tout sur Seisho Nagon, plutôt que sur Murasaki Shikibu, qu'elle présente avant tout comme une moraliste, d'ailleurs. Et cela nous permet de constater que la lecture moralisante du Genji est compatible à la fois d'un point de vue confucianiste et bouddhique. Mais il y a dans le poème une sorte d'admiration retenue, malgré tout, qui nous fait penser, un peu trop facilement peut-être, à la balade des dames du temps jadis de Villon. Mais nous voulions attirer l'attention sur une autre chose, un bien minuscule détail que les gens n'ont pas vu. C'est ce caractère-là, vous voyez, qui est un caractère très bizarre, qui se lit Ken en japonais. Que la poétesse a choisi de substituer au caractère sur lequel j'avais attiré votre attention, Hatsu, vous voyez, ici c'est Sudare Okakagu, et ici c'est Ken qu'on peut dire Ageru ou Kakagu aussi d'ailleurs. Ce caractère qui est bien rare et qu'elle emploie deux fois dans le titre même, vous voyez, dans la première, dans le titre et dans le texte du poème. Il n'y a là rien. Oui, excusez-moi, le titre veut dire donc image de Seisho Nagon roulant le store. Il n'y a là rien de remarquable, dira-t-on, si ce n'est que par à première vue, on pourrait même penser que c'est un pédantisme, parce que c'est un caractère aussi rare que le caractère que Pochuyi emploie, n'est-ce pas? Encore que pour Pochuyi, ça correspond sans doute à un mot de la langue chinoise parlée de l'époque. Mais pour les Japonais, c'est un caractère rare. Donc, ce n'est pas du tout pour simplifier la lecture, au contraire, elle la complique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, dans le Dainihonshi, dont je vous ai parlé la dernière fois, cette grande histoire du Japon qui a été commencée par l'instigation de Tokugawa no Mitsukuni au XVIIe siècle, et qui est, dont je vous rappelle qu'il est une sorte de poursuite de l'histoire, de l'historiographie sino-japonaise et en langue chinoise, mais concentrée sur le Japon, c'est-à-dire faisant une sorte de petit Japon de la Chine. Donc l'épisode est donné ici aussi, et vous voyez, comme vous le voyez, donc L'épisode est ainsi résumé. Comment trouvez-vous les neiges sur le mont de l'encensoir ? Shonagon souleva alors le store et les gens admirèrent sa présence d'esprit. C'est pas Bincho. Alors, vous voyez que c'est bien le même. C'est, dans ce Dainihonshi, c'est le même caractère qui est employé que celui repris par Kinsui. Donc, c'est Kinsui, poétesse sino-japonaise et sinologue accomplie, plutôt que de se référer directement à la lettre du Makura no Soshi, ou ce qui serait plus attendu de sa part, de reprendre le caractère chinois choisi par le poète chinois, qui est la source et l'origine de toute l'anecdote, fait un détour par un autre texte chinois, mais rédigé au Japon, dans les conditions intellectuelles que nous avons vues. Ainsi, sous couvert de sinisation de cette anecdote éminemment japonaise, mais qui repose sur un prétexte chinois, Kinsui ne fait en définitive qu'enraciner davantage le tout dans le contexte japonais. Elle japonise même la sinisation qu'elle opère. Ce n'est donc pas une réduction à la source, mais une expansion à partir du japonais vers une autre dimension du sino-japonais. Le plus intéressant est que tout cela est fait en pleine refondation culturelle de l'ère Meiji. Et l'on voit encore une fois tout ce qui était engagé chez les lettrés japonais de l'époque, qui n'avaient pas encore basculé complètement vers une nouvelle relation langagière orientée vers l'Occident. C'est dans ce contexte, au moins dans la période formative de ce contexte, qu'opère Motori Norinaga. Et pourquoi, peut-on se demander, consacrer une année à ce penseur tardif après le cours sur le Genji Monogatari ? Tout cela dans le cadre de notre enquête sur la philologie de la civilisation japonaise. Le mieux sera de laisser parler à notre place, c'est très bref, mais plein de sens, un grand critique japonais du XXe siècle. Il s'agit de Kobayashi Hideo, l'un des critiques et essayistes japonais les plus influents du siècle passé. Nous n'aurons pas le temps d'esquisser son parcours. Nous rappellerons simplement qu'il soutint activement la politique expansionniste du Japon et la guerre qu'il mena contre les États-Unis, sans toutefois être inquiété après la capitulation du Japon. S'il paraît étrange de limiter à l'épisode que je vais relater, au très bref épisode que je vais relater, une œuvre aussi importante, c'est en raison de l'évolution de ses écrits. Et c'est quelque chose qu'on observe souvent chez certains intellectuels japonais. Lui qui a écrit abondamment sur Shiga Naoya, sorte de père du modernisme japonais, Dostoïevski, Van Gogh, Mozart, a publié son dernier ouvrage d'importance en 1977 sous le simple titre de Motori Norinaga. Et je me rappelle encore la surprise, voire la gêne qui accompagna cette publication à l'époque au Japon, tant la personnalité de Norinaga était liée à la pensée nationaliste qui avait cherché à justifier la politique catastrophique du Japon pendant la première moitié du siècle. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Mais je voudrais simplement évoquer ici quelques lignes de la préface qu'écrivit Kobayashi. Il y laisse entendre que son intérêt pour Norinaga n'a rien de récent, et qu'il était même allé rendre visite autrefois, à une date non précisée, mais ça devait être avant la guerre, au grand spécialiste des religions populaires, ou traditions nationales, le Minzoku Gaku, n'est-ce pas, qui était Horikuchi Shinobu, au cours de laquelle les deux parlèrent essentiellement du Kojikiden, l'autre maître-livre de Norinaga. Au terme de son entretien, que l'on imagine assez long, Horikuchi reconduisit Kobayashi jusqu'à la gare. Et au moment de se séparer, il lui lança cette phrase, en japonais, « Kobayashi-san, Motori-san wa ne yahari genji desu yo. Dewa sayonara. » Vous savez, monsieur Kobayashi, Motori-san, eh bien, c'est le Genji Monogatari. Sur ce, au revoir. Cette phrase d'adieu, qui résonne comme un koan, semble avoir suffisamment impressionné Kobayashi pour qu'il l'inscrive comme en exergue de son ultime grand travail. Dans quelle mesure a-t-il partagé cette opinion ? Cela est difficile à dire, mais la lecture du livre de Kobayashi montre bien qu'il ne peut que rendre compte de la dialogique axiale de Norinaga entre le Genji Monogatari et le Kojiki, et que le centre de cette dialogique, c'est la parole, le kotoba, et que le lieu de déploiement de cette parole, c'est le poème japonais Uta. Ce n'est pas surprenant, vous me direz. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un livre. Mais pourtant, c'est cette affirmation, au risque de divulgâcher, comme on dit, de spoiler la teneur fondamentale du cours de cette année, que je voudrais faire en conclusion, et on comprendra qu'elle nous est importante. La pensée de Nolinaga nous apparaît en effet dans le développement que nous pourrons peut-être tenter d'esquisser un jour d'un système hiéroglossique, comme l'illustration même de la dernière phase. Nous avons souligné à plusieurs reprises que l'on peut reconnaître dans les différentes cultures où l'on discerne un système hiéroglossique une évolution en trois étapes. Une première étape où le rapport hiéroglossique est unidirectionnel et clairement établi. Dans le cercle sinoglossique qui nous intéresse, c'est pas le Wakan, la suprématie du chinois est incontestée du point de vue religieux, philosophique, politique, littéraire et se déverse sur une langue locale, le japonais en l'occurrence, ça peut être le coréen, le vietnamien, etc., qui est pratiquement une table rase. Pratiquement, c'est à qualifier aussi, mais... Ensuite, une deuxième étape où la relation hiéroglossique se rééquilibre. La langue recevant, ce que j'appelle la laoglosse, s'établit, la langue du peuple, s'établit et se rétablit en tissant avec la hiéroglosse, la langue de référence, des liens sémantiques étroits, sémantiques et linguistiques au sens le plus large. Il s'établit une tradition antique, le initié, n'est-ce pas, autochtone. Et nous verrons qu'avec Motori, comme bien d'autres, cette tradition antique, c'est le Manyoshu, le Kojiki, etc. Donc une tradition de référence qui est parallèle à celle de la langue sapientielle, de la langue de la hiéroglosse. Il suffit de rappeler à quel point la préface du Kokinshu se modèle sur les textes anciens, sur des préfaces chinoises anciennes du Shuting, du livre des Odes, pour comprendre ce que je veux dire. Et en troisième lieu, vient la période d'inversion des valeurs, où la laoglosse s'estime capable de supplanter la hiéroglosse. La langue profane supplante la langue sainte et de reprendre pour elle toutes les qualités symboliques qu'elle avait auparavant reconnues à la première. Elle se doit donc de recourir à une rhétorique agressive, comme il n'y en a eu jamais dans le sens inverse. Il n'y a jamais eu jusqu'à l'époque moderne, les lettrés chinois n'ont jamais dénigré le japonais ou quelque langue que ce soit, ils s'en moquaient cordialement. Donc c'est toujours du sens sacré profane. Cette rhétorique agressive affirme une supériorité ontologique essentielle, anhistorique, métahistorique. Vous allez le voir, c'est tout à fait ce que dit Nolinaga. Ce sera ici le rôle de Motori Nolinaga. Cette troisième phase n'est pas obligatoire. Elle connaît des différences d'intensité selon les cultures. La France est passée par la querelle des anciens et des modernes, à la fin du XVIIe siècle, avant le triomphe des lettres françaises du XVIIIe. Si Bossuet a affirmé la supériorité du latin, Bossuet qui était prêtre, n'est-ce pas, la supériorité du français sur le latin, il l'a fait au nom d'une clarté d'expression qui s'est en fin de compte qui est élaboré, si l'on regarde bien, sous l'influence du latin. Il faut aussi remarquer que la religion joue un rôle dans le contrôle de cette relation. Si nous prenons le cas de la langue persane, il semble que l'intensité d'attitude soit liée à la question religieuse, c'est-à-dire la nature du rapport avec la religion musulmane. Le retour puriste intégral serait davantage l'œuvre des zoroastriens, par exemple. Enfin, là aussi, c'est une autre histoire. Avec Motori, nous découvrons ce qui apparaît comme un paroxysme de la pensée hiéroglossique au Japon, une illustration exemplaire de la troisième phase. Mais l'on n'oubliera pas que cette pensée langagière paroxystique n'est pas paradoxale. Les années passées nous ont montré toutes les étapes préliminaires qui mènent à cette doctrine extrême. Nous venons aussi de rappeler les conditions initiales qui distinguent la hiéroglossie japonaise de bien d'autres en Asie orientale. La sacralisation, vous connaissez bien tout cela, n'est-ce pas maintenant, la sacralisation préliminaire de la langue par l'idée de l'origine divine du waka, du poème japonais, qui ne peut être que la langue japonaise par définition. On peut dire encore une fois que la pensée de Motori Nolinaga, qui découle de cette égalité uta, n'est-ce pas, le poème japonais, et kotoba, a été préparée de longue date par les lettrés japonais, parmi lesquels les bouddhistes n'ont pas été en retrait. Mais donnons quand même quelques brèves indications sur la vie et la formation de notre protagoniste. Je vous renvoie éventuellement. J'ai découvert qu'on peut le trouver très facilement en ligne. C'est le Dictionnaire historique du Japon, qui a été publié en fascicules séparés entre 1960 et 1988, ou quelque chose comme ça, en plusieurs fascicules. Mais tout cela maintenant est abordable. Vous connaissez le portail Perse, en France, PERSEE, qui vous permet d'avoir. C'est un projet extraordinairement bien mené et bien conçu. Dans le portail Perse, vous avez accès au dictionnaire historique du Japon. Vous tapez dictionnaire historique du Japon et vous avez les fascicules alphabétiques qui sortent. Donc vous pourrez très bien consulter ça. Mais je vous donne quand même quelques indications. Donc, Norinaga est né en 1730, et pas 1750, je le répète, dans la ville de Matsuzaka. Matsuzaka, qu'on prononçait aussi Matsusaka, de la province d'Ise et l'actuelle préfecture de Mie. Sa famille, dont le nom était Ozu, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est le metteur en scène, le célèbre metteur en scène japonais, était un descendant de cette famille, tenait un commerce de gros en cotonnade. Des vicissitudes familiales devaient l'amener à reprendre à son tour la direction du négoce, mais une incompatibilité d'humeur le fit s'éloigner du commerce et se rendit à Kyoto en 1752 pour y étudier la médecine, d'abord, ce qui le fera vivre. Beaucoup de grands philologues ont été médecins pour s'assurer une vie matérielle, tout en se consacrant à leurs vraies études par ailleurs. Donc il se rendit à Kyoto en 1752 pour y étudier la médecine et les classiques confucéens auprès de Hori Keizan, qui était par son père, la famille des Hori est une célèbre famille de Kangakusha, dans la lignée directe de Fujiwara Seika. J'ai suffisamment parlé de lui, je n'y reviens pas. Mais en plus du néo-confucianisme ou du confucianisme, ce Hori Keizan avait étendu ses intérêts au Kokugaku et à l'étude des anciens textes. Et encore une fois, tous ces gens ont un peu un parcours intellectuel très voisin. Je le regarde là-dessus. Vous voyez, je vous donne le Kobunjigaku et donc l'étude des anciens, l'étude de philologique des anciens textes, je dirais, qui est un mouvement qui s'est déployé au Japon au XVIIe, XVIIIe siècle, essentiellement sous l'impulsion de Ogyu Sōlai, que je vous donne ici aussi, et portait sur les textes chinois d'abord. Je vous l'ai déjà dit, donc ces Kangakusha japonais avaient décidé d'étudier les textes chinois débarrassés de leur tradition de commentaires sur-idéologisés au cours des siècles. Ils ont pensé que ça faisait plus de mal que de bien pour retrouver le sens originel. Et donc ils se sont débarrassés de tout ça et ont essayé d'étudier la langue de façon, on pourrait dire, synchronique, c'est-à-dire de prendre la langue des classiques telle qu'elle était à leur époque, évidemment, pour ceux qui en savaient. C'est parallèle à une école chinoise qui s'est aussi développée à l'époque des Qing, n'est-ce pas, à l'époque au XVIIIe siècle et XIXe siècle, qui est très proche. Donc, à partir de ce Kobunjigaku, de cette étude de philologie antique, en quelque sorte, eh bien, Hori Keizan avait étendu ses intérêts au Kokugaku, aux études nationales et aux anciens textes japonais. Et c'est grâce à Keizan que Norinaga découvre les écrits de Keiichu. Alors là aussi, Keiichu, donc 1640-1701, qui est pour moi le père de ce courant philologique japonais de l'époque d'Edo. Et ce qui est très, très intéressant, c'est indirectement, c'est le fondateur du Kokugaku. Pas qu'indirectement d'ailleurs, puisque vous savez qu'il a écrit aussi sur le Hyakuninshu et tout cela. Mais c'est un moine, et un moine de l'école Shingon, donc de l'école de l'ésotérisme, et ses premières études philologiques proviennent du désir d'approfondir les réalités phonétiques des mantras, des shingon, des dharani japonaises, n'est-ce pas ? Donc c'est entièrement sa démarche provient du bouddhisme et il a étendu sa problématique, comme on dirait maintenant, aux Chinois et aux Japonais. C'est à lui que nous devons, par exemple, ce qu'on croit être un vieux système archaïque, mais ce qu'on appelle le Kyukanazukai, c'est-à-dire l'orthographe traditionnelle des lectures sino-japonaises des caractères, quand par exemple on écrit pour la loi, n'est-ce pas, pour écrire la loi, on écrit ho maintenant, ho-u, mais on écrivait autrefois ha-fu ou ho-fu, c'est Keichu qui a systématisé cela. Donc ce n'est pas du tout une tradition antique. Et donc c'est par Keizan que Norinaga découvre les écrits de Keichu et ses travaux sur les grands textes littéraires japonais, en particulier le Manyoshu aussi. Je reviens là-dessus dans un instant. Mais le commentaire de Keichu sur le Hyakuninishu fut, semble-t-il, sa première expérience décisive. Il étudie 6 ans à Kyoto, où il prend le nom d'une partie de ses ancêtres, de Motori, avant de retourner à Matsuzaka, où il pratique la pédiatrie. Il y rédige un premier travail sur l'esprit de la poésie, mais surtout donne des conférences sur les grands classiques japonais, le Manyoshu, le Kokinshu, l'Issemonogatari et le Genji. Et c'est en 1763 qu'il rédige un texte sur lequel nous reviendrons au moins 3 leçons, je l'espère, l'essentiel du livre de Murasaki Shikibu, le Shibun Yodyo. Donc c'est en 63, n'est-ce pas, il a 33 ans. C'est dans cette même année qu'il fit la rencontre unique et décisive qui bouleversa sa vie, cet entretien qui est connu dans l'histoire comme la nuit de Matsuzaka, ou Matsusaka no Ichiya, et avec le grand maître des études nationales, donc le Kokugakusha, qui était Kamo no Mabuchi, qui a été le maître distant, mais toujours présent par les lettres, de Norinaga. Mabuchi avait 66 ans à l'époque. Et donc le double de l'âge de Norinaga, qui en avait 33, et il va lui donner cette nuit-là des orientations décisives pour le reste de sa vie. Et en particulier, c'est lui qui attire l'attention de Norinaga sur l'importance d'une œuvre que lui voulait faire, mais qu'il estime ne plus avoir le temps de faire, n'est-ce pas, ce qui n'est pas faux, puisqu'il ne reste plus que 6 ans à vivre, c'est-à-dire l'étude du Kojiki. Nous reviendrons là-dessus, évidemment, mais peu à peu. Vous savez, le Kojiki n'est pas un donné de l'histoire japonaise. C'est pas comme le Genji Monogatari, où tout le monde a vu tout de suite que c'était un classique. Le Kojiki a été, alors là, pour le coup, a été, d'une certaine façon, rebâti, sinon en classique, parce qu'on ne peut pas parler d'un classique au sens où on se modèlerait sur lui, mais c'est un texte fondateur. Nous reviendrons, bien sûr, aussi sur ce sujet. Ils nouèrent alors des liens de maître à disciple qui durèrent jusqu'à la fin de la vie de Mabuchi. Mais leurs relations furent uniquement épistolaires, le maître ayant promis de transmettre son savoir aux disciples. On ne sera pas surpris d'apprendre que l'étude de Mabuchi s'est concentrée sur le Manyoshu, les Norito, vous savez, les textes des prières, des cérémonies Shinto, qui sont en principe entièrement en japonais, en Yamato Kotoba, le Kokinshu, le Genji, mais aussi sur le Kojiki. Et c'est sur ce dernier point que son influence fut décisive. Alors que Norinaga s'était jusqu'alors consacré principalement à l'étude du Genji, comme texte fondateur de la langue japonaise et de l'esprit japonais, Mabuchi l'engagea à aller chercher plus haut, dans un texte mystérieux dont la découverte était relativement récente, alors qu'il était resté ignoré de l'âge d'or de la littérature japonaise, l'époque de Heian. On ne parle pas du Kojiki à l'époque de Heian. Il est cité dans quelques textes. Il est cité indirectement. On relèvera aussi qu'il a consacré une activité considérable à l'étude et à la pratique du waka. Je parle de Mabuchi. Et il était lui-même disciple de Kadano Azumamaro, qui se réclamait de Keichu. Vous voyez la lignée, donc. Ouais, nous avons donc Norinaga, Mabuchi, Azumamaro, Keichu. Donc, le bouddhisme Shingon. C'est donc dès l'année suivante, 1764, que Norinaga se lance dans l'étude du Kojiki, à laquelle il consacrera le reste de sa vie, sans cependant renoncer à son enquête sur le Genji Monogatari. Cela aboutira en 1798 à la publication de son grand œuvre, le Kojiki Den, qui fait pendant à son autre grand ouvrage, le peigne précieux du Genji Monogatari, le Genji Monogatari Tama no Ogushi, qui est aussi fondamental pour connaître ce qu'il pense, qui a été publié en 1793. Donc vous voyez, 5 ans de différence et la fin de la vie de Norinaga. Et on appréciera le parallélisme de la démarche. Il n'a pas du tout renoncé au Genji, mais il l'appuie sur le Kojiki. Parce que, enfin bon, nous reviendrons bien sûr là-dessus. Autour de ces deux œuvres axiales, Norinaga rédigea de nombreuses études philologiques sur la langue japonaise ancienne, mais aussi des essais plus critiques, dans lesquels il entend imposer l'indépendance de la culture japonaise à l'égard de la culture continentale sino-coréenne. Il prône en conséquence, enfin des termes que nous allons revoir, le kodo, ou la voie de l'antiquité, Inishie no Michi, n'est-ce pas ? La voie antique, aussi dans laquelle on reconnaît l'influence du Kobunjigaku de Ogyu Sōdai, dont je vous parlais il y a un instant. D'ailleurs, je vous signale ce texte, l'essai sur l'histoire de la pensée politique au Japon. Ce sont des textes de Maruyama Masao qui viennent d'être publiés en français dans la traduction de Jacques Joly. Et il y a justement un chapitre, le chapitre 4, qui est les rapports entre l'école de Ogyu Sōdai et le courant nativiste. Alors là, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je ne suis pas très partisan de l'utilisation de ce terme. Le courant nativiste et en particulier l'école de Motori Norinaga. Bon, vous voyez, c'est bien mis en évidence ici. Nous aurons aussi l'occasion de voir que cette voie de l'Antiquité, Kodo, est aussi très proche de la voie de la poésie, Kado, Uta no Michi, qu'il n'a cessé de considérer comme le centre de ses préoccupations. Comme Jien, évidemment, vous vous souvenez. Mais Jien le faisait du point de vue bouddhique, alors que lui le fait d'un autre point de vue. Il laisse d'ailleurs plusieurs commentaires sur le Kokinshu et le Shinkokinshu, dont il donne aussi des traductions dans une langue plus modernisée, une originalité pour l'époque, qui montre combien il est conscient de l'évolution de la langue japonaise. Nous avons en outre un recueil poétique personnel, je ne l'ai pas donné, mais nous reviendrons dessus. Suzuyano-shu, n'est-ce pas, qui contient 2500 poèmes, et Suzuya étant le nom littéraire qui s'était trouvé en tant que poète. Il n'était bien sûr pas le seul à faire des poèmes japonais parmi les kokugakusha, ils se sont tous fait un devoir de cultiver la poésie japonaise, ça se comprend, n'est-ce pas, après tout ce que nous avons dit, et Kamono Mabuchi l'avait fait avant lui. Il était intéressant aussi de noter les rapports continus que Norinaga eut avec un poète comme Ozawa Roan, n'est-ce pas, qui fut d'abord un disciple de Mabuchi, avant de rompre avec lui en refusant de cultiver les poèmes archaïsants dont la mode revenait alors sous l'influence du renouveau des études du Manyoshu. C'est aussi quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne se rend pas assez compte. À l'époque d'Edo, il y a eu un véritable retour, tout ça est dans le contexte que je vous décris, n'est-ce pas, un retour aux poèmes du Manyoshu. Et comme vous le savez, les poèmes du Manyoshu sont très difficiles à lire, et il y avait donc, c'était vraiment de l'hermétisme, de la poésie hermétique avant la lettre au Japon à cette époque-là, les poètes imitant le Manyoshu, et mieux, plus c'était incompréhensible, meilleur c'était. Et Ozawa Roan se pose contre cette tendance. Il ne faudrait cependant pas voir en Norinaga qu'un philologue à l'écart de la société de son temps. Comme les grands lettrés japonais de l'époque, qu'ils soient confucianistes, bouddhistes ou tenants des études nationales, il est réclamé par son public, pourrait-on dire. Il fait littéralement des tournées de conférences dans tout le Japon, bien évidemment invité par les grands du temps. Et ses voyages lui donneront le prétexte d'écrire des itinéraires ou journaux de voyage, mais aussi l'occasion de mettre par écrit ses opinions sur la politique et l'économie, comme il le fit par exemple à la demande du daimyo du fief de Ki, n'est-ce pas, le Wakayama Ken actuel, et qui devint l'un de ses livres les plus connus de nos jours, enfin, il nous concerne par certains. Le tamakushige, n'est-ce pas, en général, ça s'écrit souvent en hiragana avec tama simplement, gyoku, n'est-ce pas. Donc je ne vous ai pas mis les caractères. Ce tamakushige, le précieux étui à peigne de 1786. Le seigneur de Ki, n'est-ce pas, Ki no Kuni, était Tokugawa Harusada, et qui lui demanda son avis pour apaiser les soulèvements causés par la famine. Et Norinaga le lui donna, malheureusement peut-on dire, parce que je crois qu'il n'en a pas compris grand-chose, en commençant par se livrer à une critique en règle de la pensée chinoise. Et, puisque c'était, dans ce genre de situation, c'était souvent les confucianistes qui étaient consultés au Japon. Donc, il commence par balayer la concurrence, en quelque sorte, en disant qu'elle était impuissante à résoudre ce genre de problème, et s'engage ensuite dans une présentation de la situation dans le cadre de la poésie, de la théologie proprement japonaise. Je vous réfère à cet article de Brownlee sur ce sujet. C'est assez intéressant, on voit le décalage entre la réalité et l'idéologie. Il met donc sa pensée philologico-théologique, puisqu'on a compris que ces deux dimensions sont liées chez lui, bien au-delà de ce qui peut être le cas dans le confucianisme, on est quand même plus près des réalités, au service de la société, et donc sans grand résultat. Il faut souligner l'importance de la poésie, de la mythologie japonaise pour Norinaga, bien sûr, telle qu'il la redécouvre dans ses recherches sur le Kojiki. Et dans des œuvres comme le Kamiyo no Masakoto, n'est-ce pas, les justes propos sur l'âge des dieux, ou le juste vocabulaire de l'âge des dieux, où il réexpose le Kojiki en un langage plus simple, c'est une traduction. Et il donne un aperçu de ce qui est pour lui et ce qui deviendra plus tard à l'ère Meiji, le Shinto restauré, le Fukko Shinto, n'est-ce pas, le Shinto ramené à l'Antiquité, qui est le résultat d'un travail de dépouillement de toutes les accrétions étrangères, bouddhiques, confucianistes et autres, sur la pureté originelle des croyances japonaises anciennes, telles que les Kokugakusha les redécouvrent dans leurs études philologiques. Il est bien entendu que ce travail de purification philologique remet en valeur le seul fondement anciennement attesté du système politique japonais, à savoir le pouvoir impérial, contre le pouvoir des shoguns, qui n'a aucune légitimité antique, si ce n'est comme auxiliaire de l'empereur, n'est-ce pas, c'est dans le système du Seisho Kampaku. Nous voyons ici aboutir, 600 ans après Jien, encore lui, l'inverse de sa réflexion sur l'histoire, dans laquelle Jien cherchait, sinon à justifier, du moins à expliquer le passage de pouvoir de l'empereur au shogun dans le cadre d'une idéologie bouddhique fondée sur le dépérissement de la loi bouddhique. C'était en quelque sorte normal, dans une époque de fin de la loi, que le système impérial s'écroule pour faire place à un pis-aller que sont les shoguns. Nous sommes ici, au contraire, dans un mouvement inverse, un mouvement ascendant. Nous parlons donc toujours de la voie, Michi, et vous savez qu'à quel point ce terme a été utilisé dans le Honji Suijaku, n'est-ce pas, l'assimilation du bouddhisme et de la divinité japonaise. Mais nous sortons de cette dialectique du Honji Suijaku, donc de l'assimilation des Bouddhas et des Kami, qui avait tant fait pour harmoniser la voie étrangère sino-indienne et les croyances japonaises. Nous avons vu que les voyages à travers le Japon, qui marquent la plus grande part de la vie publique de Norinaga, sont la conséquence de sa notoriété. Dans tout le royaume surgissent des auditeurs enthousiastes de ses idées, qui contractent avec lui des liens de maître et de disciple. Son ardente défense de l'esprit japonais face à l'empiètement millénaire de la culture continentale vient à point. Ses idées seront reprises, simplifiées, probablement déformées par la politique de l'ère Meiji, lorsqu'il deviendra l'un des symboles de la pensée dite impérialo-xénophobe, c'est ainsi que je traduis Sonno-joi, n'est-ce pas, littéralement vénérer l'empereur, expulser les barbares. Mais il faut dire pour sa défense, si l'on peut dire, qu'il n'était pas le seul et que l'on peut évoquer à ce propos l'action de son disciple, Hirata Atsutane, bien plus tardif, qui ira bien plus loin que lui dans ce sens. Atsutane se posa certes en élève de Norinaga, mais il ne le connut pas directement et ne se contenta pas d'en rester à l'activité philologique de son modèle. Et d'ailleurs, il a eu le surnom de Alamitama, n'est-ce pas, ce qui veut dire l'esprit déchaîné, enfin, parce que souvent des gens comme Kato Shuichi ont mis en doute la normalité psychologique de Norinaga. Mais quand on voit Hirata Atsutane, c'est encore une autre paire de manches. Et alors certes, Norinaga, nous reviendrons aussi là-dessus, s'est opposé avec force au confucianisme et au bouddhisme. Il a attaqué vigoureusement et systématiquement, nous reviendrons la semaine prochaine là-dessus, systématiquement donc ce qu'il a appelé, ou plutôt le terme qu'il a repris de karagokoro, n'est-ce pas, et qu'on traduit souvent par l'esprit chinois. Je traduirais volontiers par la sinisation des esprits. Encore une fois, nous le verrons encore une fois, mais Norinaga n'a rien contre les Chinois, n'est-ce pas, ni contre les Coréens. Il ne s'attaque pas à la Chine, mais aux Japonais qu'il estime sinisés. C'est tout à fait différent. Et ce karagokoro, c'est ça. Nous l'avons déjà dit, cette altercation au sens propre entre esprit japonais et esprit chinois ne date pas d'hier. L'exaltation du Yamato Gokoro, de l'esprit de japonais, aussi appelé d'une façon perçue à l'époque moderne comme plus vigoureuse de Yamato Damashi, nous reviendrons tous ces sujets, l'âme japonaise, se trouve dès l'époque de Heian. On se souvient par exemple du facétieux poème, le Haikai de Nakazome Emon, Haikai au sens facétie et pas haiku, n'est-ce pas, contemporaine de Murasaki Shikibu, encore une contemporaine, qui répond à son mari à propos d'une nourrice qui n'a pas de lait, qui n'a pas assez de lait. N'est-ce pas, vous vous souvenez de cette histoire? S'il n'a pas assez de lait, qu'à cela ne tienne, je vous donne simplement en translittéré, qu'à cela ne tienne, tant que son cœur japonais lui donne du sens, si mince soit son lait, cela suffira bien. Yamato Gokoroshi, son cœur japonais, Kashikokuwa, donc étant sage par son Yamato Gokoro, Hosoji Nitsukete. Alors vous voyez que le Hosoji, c'est un jeu de mots, Hosochi, chi, ça veut dire à la fois le lait maternel, n'est-ce pas? Et donc Hosoji peut vouloir dire la minceur du lait, enfin du filet de lait que la nourrice peut produire, mais en même temps hosochi, hosonochie, c'est un peu le, tout à l'heure vous avez vu le composé choe, n'est-ce pas, la petite sagesse, et là c'est chi e no chi, et c'est un mot chinois, bien sûr. Il n'a rien à faire dans une poésie japonaise, mais c'est d'une facétie. Donc, on peut jouer sur les mots chinois et japonais. Donc, la minceur de sa sagesse et la minceur de son lait est compensée par la générosité et la sagesse de son cœur japonais. Donc, vous voyez, nous sommes à l'époque de Heian, nous sommes autour de l'an 1000, c'est pris à la blague. Enfin, c'est la femme, Nakazome Emon, dont le mari est un grand kangakusha de l'époque, eh bien, elle lui rabat le kake, elle lui rabaisse le kake, en quelque sorte, en faisant ce jeu de mots. Donc, nous sommes dans une ambiance nettement plus décontractée en comparaison de la façon dont ces termes seront employés à la fin d'Edo, à Meiji, puisqu'on va mourir pour le Yamato Damashi. Là, il n'est pas question de mourir. Le terme de Yamato Damashi, donc je vous l'ai dit, peut-être apparaît déjà à la même époque dans le Genji Monogatari. Donc au terme de ses pérégrinations et de ses conférences, Norinaga se retrouva avec des centaines de disciples qui se réclamaient de lui. Mais par l'étendue de son œuvre et la ténacité dans la poursuite d'un but que je définirais encore une fois comme l'approfondissement du concept de Kotoba et du Kado, ou la voix du poème japonais. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer que c'est très drôle de voir qu'on parle de Uta. Je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans l'Eurasie, au moins, où le terme autochtone pour poésie ne signifie que poésie japonaise. C'est-à-dire Uta, Uta ne veut dire que poème en japonais. Et d'ailleurs, on enfonce le clou en disant Waka. Waka, c'est Yamato no Uta. Donc, il est mis en quelque sorte, il a tout de suite été mis en regard de la poésie chinoise. Du point de vue de la sémantique, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans le japonais moderne, quand on veut dire la poésie, comme on n'a pas osé choisir entre shi et uta, eh bien, on dit shiika, la poésie. Donc, on a mis les deux ensemble. Donc, la poésie chinoise et japonaise, bien sûr, ça ne veut plus dire ça. Ça veut dire la poésie en général, mais on a été obligé de faire la synthèse des deux. Alors, malgré les critiques qui lui ont été faites, on remarquera quand même que Norinaga n'a pas eu l'agressivité d'un Hatsutane qui, dans ses propos rieurs sur le... presque rigolade à la sortie du samadhi, je vous en parlerai, hein, qui est un livre de raillerie systématique à l'égard du bouddhisme. Jamais Norinaga n'a fait ce genre de choses. Je vous en parlerai un tout petit peu de la prochaine fois, peut-être. De même que son esprit de philologue, il a sans doute empêché de sombrer dans le ridicule, comme son pseudo-disciple, Hatsutane, n'est-ce pas, qui a marché en plein dans le canular qui était le Shindai Moji, n'est-ce pas, l'écriture des noms des dieux. Et, je suis désolé, j'ai un peu dépassé le... Mais, il manque, et d'ailleurs on va bien voir chez Norinaga, il manque aux Japonais pour bâtir, initier cette antiquité, une écriture. Il n'y avait pas d'écriture, il y a Michi, il y a la voie, mais il n'y a pas d'écriture pour la dénoter. Et ça a été senti comme un manque. Il fallait une écriture avant l'écriture chinoise. Vous vous souvenez que Jien a pallié un peu ce manque en rapprochant le syllabaire japonais du syllabaire sanskrit. C'est-à-dire que par-delà les caractères chinois. Et Hatsutane, c'était pas lui, mais c'est quelqu'un qui l'a dit, mais si, il y avait une écriture japonaise à l'époque qui a disparu au Japon, mais que nous avons gardée, et pendant Hatsutane a contribué à répandre cette écriture du monde des dieux qui a fait Flores. Et d'ailleurs, si vous regardez sur l'internet, ça continue encore maintenant, ceux qui ont fait du coréen le reconnaissent tout de suite, c'est du vulgaire coréen, je dirais, donc une écriture qui a été inventée au 15e siècle, n'est-ce pas, et qui est tout à fait reconnaissable, sauf qu'il y a quelques mots qui sont un peu, quelques lettres qui sont un peu bizarrement écrites, mais vous voyez, et en plus, ils ont exactement la valeur des lettres coréennes, sauf que l'ordre n'est pas, vous voyez, vous avez qui, Kiko-hi, etc., kudos, alors fou, là, ça c'est une lettre qui n'existe pas, enfin qui n'existe plus, etc. C'est exactement du coréen. Et Hatsutane a sauté les pieds joints dans le piège, et c'est évidemment, lorsque le poteau rose a été découvert, tout le monde s'est couvert de ridicule, mais ça existe encore maintenant. Donc, auteur de plus de 90 ouvrages, dont quelques-uns sont l'œuvre de toute une vie, on l'a vu, Norinaga ne saurait être décrit dans cette brève année. Nous en tiendrons à ce qui me paraît important pour notre enquête, ce qui concerne le Genji Monogatari, donc, et ses idées sur le langage, qui se fondent sur une analyse profonde et enthousiaste de la langue japonaise. Nous voyons d'ores et déjà se dessiner, à travers ces trois leçons de préambule, les contours de notre investigation. La philologie de Norinaga s'inscrit dans un processus de transfert de l'étude renouvelée du chinois classique selon de nouvelles méthodes de philologie positive, c'est-à-dire historique, voulant se départir de siècles de commentaires confucianistes chinois et japonais. Cette méthode s'est en grande partie élaborée avec Keiichu, et donc dans un milieu bouddhique. Keiichu se proposant d'abord de se départir des procédés de transmission ésotériques qui masquent le vrai sens des textes. L'intérêt essentiel, fondé religieusement, professé par les bouddhistes des écoles ésotériques pour la prononciation correcte des shingon, des paroles de vérité, des mantras donc, et des dharani, alliés à la lecture des textes de Kukai sur le langage, et n'oublions pas que ces textes de Kukai font partie des jikansho, c'est-à-dire les dix livres fondamentaux de l'école shingon, a entraîné Keiichu à la même rigueur envers la philologie japonaise. Et dans un milieu dominé intellectuellement par les confucianistes et le prestige des lettres chinoises, ce processus, que je me risquerais à appeler de grammatisation du japonais, s'inscrit bien sûr dans la dernière étape de l'évolution hiéroglossique. Grammatisation n'est pas un néologisme que j'ai fait, rassurez-vous, c'est utilisé par les linguistes. En concurrence avec grammaticalisation, il y a une légère différence de nuance que je n'aborderai pas ici. Nous voyons aussi dans l'importance décisive qu'ont eu les études sur le Manyoshu, pour donner l'impulsion première à ce procédé. Et cela montre que la voie à suivre est double. Il s'agit d'un double décryptage. L'explication d'une langue archaïque comportant de nombreux points obscurs d'une part, mais aussi d'autre part et tout aussi importante, le déchiffrement, le décryptage au sens propre d'une écriture qui cache autant qu'elle dévoile, puisque l'on sait qu'une partie importante du Manyoshu est notée dans une écriture volontairement et peut-être même par esprit ludique, obscure, encodée, alors qu'existaient déjà les moyens de noter la langue japonaise de façon rigoureusement phonétique. Et c'est ici qu'il faut encore faire intervenir ce concept de hiérographie dont je vous ai parlé la dernière fois. À partir de là, et sous l'enquête minutieuse des kokugakusha, le canon littéraire japonais devient l'égal des canons de langue chinoise, confucianiste et bouddhique. Ce qui est vrai du Manyoshu est encore plus pour le Kojiki, qui a sur le Nihonshoki l'avantage d'être rédigé dans un chinois aberrant, un chinois qui ne peut être compris qu'en le ramenant à la langue japonaise qui le soutient. Nous voyons se dessiner ainsi, dans la lignée allant de Keiichu à Kadano Azumamaro, puis Kamono Mamuchi, puis Motori no Naga, le processus de création d'un canon qui comportera le Manyoshu, le Genji Monogatari et le Kojiki, le seul des trois qui se présente d'emblée comme un texte religieux. Et vous voyez encore une fois combien les études qui prétendent que l'élaboration du bungaku japonais, de la littérature japonaise, date de l'occidentalisation de Meiji ne marche pas. Cette idée d'établir un canon japonais, non pas à l'encontre du canon littéraire européen, mais du canon littéraire et religieux chinois, voire bouddhique, ça date de bien avant l'occidentalisation du Japon. Il était donc de bonne guerre qu'on accorde la première place à Norinaga. Donc, à des degrés divers, ces trois textes peuvent être dits fondateurs. Et nous pouvons nous inviter à... D'ailleurs, attendez la publication de Hiéroglyphie 2 sur les textes fondateurs, où nous reparlerons de cela. Donc, l'œuvre de Norinaga installera ces trois œuvres résolument à ce niveau, du moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au point que le Kojiki et qui sera distribué comme une sorte de, sous le format d'une Bible dans les troupes américaines, dans les troupes chinoises, pardon, dans les troupes japonaises. Vous avez les évangiles, vous voyez tous ces espèces de publications de guerre je crois que c'est né aux États-Unis certainement, les Bibles portatives pour les soldats, etc. Les Japonais ont fait le Kojiki de la même façon, et évidemment le Sutra du Lotus. Et alors c'était beaucoup plus léger et portable, c'est les entretiens de Confucius aussi. Il faudra que je... Donc, nous avons vu l'an dernier que le Manyoshu, comme le Genji, n'ont rien perdu de ce statut dans le public japonais, puisqu'ils sont encore étudiés dans les culture centers. Donc c'est sur ces prémices que nous aborderons la prochaine leçon ce que Norinaga a à nous en dire. Et vous verrez que c'est un peu bizarre, mais nous allons commencer par la fin. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Je suis désolé d'avoir perdu tant de temps au début, et à la semaine prochaine.